R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Vous étiez debout sur un quai de gare et vous attendiez un train. Le train était visiblement en retard et vous montriez des signes d'impatience. Alors que vous vous apprêtiez à rentrer chez vous, le train est finalement arrivé. Ce train, comme je le voyais en rêve, présentait la particularité d'être entièrement constitué d'un métal de couleur dorée. À son entrée dans la gare, tout s'est illuminé autour de vous. Pour moi, la signification de ce rêve est très explicite. Un événement que vous espérez depuis longtemps est sur le point de se produire. L'arrivée de ce train de couleur or symbolise la réalisation de l'un de vos rêves. J'ai besoin de vous communiquer tous les détails de ce rêve.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Kiasma pour cette première rencontre de la résidence d'écriture, aussi de pensée partagée avec Jean-Paul Curnier. C'est vrai que voilà, on s'est trouvé en tout cas à discuter depuis le printemps dernier de comment travailler ensemble. Sachant que moi, ce qui m'occupait à ce moment et ce qui nous occupait un peu tous à ce moment et qui s'est en quelque sorte développé par contamination, c'était cette question de la possession.
Nous sommes la chair qui mange la chair. La chair qui mange est celle qui est mangée. Nous sommes le tireur, la flèche et la scie. Nous sommes sans regret le monde du vivant. La chair que nous mangeons nous a déjà mangé.
Cette origine que nous invoquons et que nous pensons pouvoir atteindre par la compréhension et les efforts de l'intellect, n'est peut-être, somme toute, que le fruit d'une illusion en forme de renversement de perspective. Car tout porte à penser que l'origine qui nous importe, celle dont nous avons le pressentiment et qui nous taraude comme le secret perdu de ce que nous sommes, n'est pas loin en vérité. Elle est même, pourrait-on dire, toujours déjà là. Et si elle semble si loin de nous, c'est du fait de sa difficulté d'accès, non de son éloignement dans le temps.
Mon ambition était de partir pour un genre d'odyssée de retour quelque part, chez soi. Je suis parti chercher ce chez moi que j'avais abandonné depuis un moment, et je ne me souvenais plus comment y arriver, mais j'étais sur le chemin. Et rencontrer ce que j'ai rencontré en route était ma perception de tout cela. Je suis né très loin d'où j'aurais dû être, et je suis sur le chemin du retour. Je n'avais pas vraiment d'ambition. Bob Dylan. Moi, je voulais être archéologue. Quand j'étais enfant, je fouillais sans arrêt la terre. Je trouvais des choses, souvent. Mais je fouillais tout le temps. La plupart du temps, pour rien. Juste pour fouiller, pour l'odeur, pour le principe du mystère, d'aller découvrir quelque chose. Et un jour, j'ai entendu à la radio quelqu'un qui résumait ça. Très bien. Un très jeune archéologue. Et il a dit cette définition qui m'a totalement bouleversé parce que ça avait été toute mon enfance. Il a dit je suis archéologue parce que quand on exhume de la terre un plat, par exemple, antique, ma main qui se pose dessus elle est immédiatement après la main qui, il y a 2000 ans, a pris ce plat. L'arc, c'est pareil, dans un deuxième temps. C'est-à-dire que c'est l'homme d'il y a 20 000 ans, de maintenant, d'ailleurs, etc. Et il suffit de s'abandonner, de ne pas se poser trop la question, mais de se la poser après.
Georges Bataille.
Vous rappelez-vous ce que vous auriez voulu être quand vous étiez écolier ?
Oh, cela changeait tout le temps. Mais je me rappelle que je lisais beaucoup, beaucoup Buffalo Bill et que j'aurais voulu être Sioux ou quelque chose de ce genre.
Estimez-vous avoir réalisé l'essentiel de vos rêves de jeunesse ? Il n'est pas devenu Sioux quand même. Non, mais il en a eu d'autres, je veux dire.
Lorsque l'on tient un arc par sa poignée, qu'on le porte à bout de bras et que l'on tend la corde, même si cet arc est de fabrication récente, c'est une sensation de ce genre qui vous envahit. Celle de la continuité de l'humain dans ce qu'il a de plus ordinaire et de plus personnel, entre nous et une époque disparue. Quelque chose comme une connaissance se révèle alors à vous. Une connaissance ancienne de soi qui se manifeste d'abord par une sorte d'assurance, de tranquillité intérieure, ou encore de bien-être à se tenir les pieds sur la terre et dans une attitude parfaitement équilibrée. Saisir un arc de chasse par sa poignée de bois et le tenir tendu à bout de bras, c'est, pour peu que l'on s'efforce d'en être conscient, faire revivre à notre matière humaine un geste millénaire de guerre et de chasse, de vie et de mort, qui nous relie à un fond commun disparu de l'humanité sur tous les continents. Vivre ce geste dans toute sa profondeur, c'est se disposer à être revisité par lui de fond en comble, c'est être réactivé par lui en tant qu'humain dans la durée et non comme seule présence circonstancielle. C'est opérer un court-circuit dans le temps, effectuer un geste qui fait suite, qui vous place dans la suite immédiate d'ancêtres inconnus, aux gestes pourtant communs et familiers. Là, dans cet instant, ce ne sont pas seulement des visions qui remontent, mais des sensations familières et cependant déconnectées du temps présent, une sensation de présence de l'origine. Ishi, dernier survivant du peuple Yahi, mort en 1916 à San Francisco, Californie.
Concrètement, parce que moi, j'ai lu le livre et puis je me suis dit, bon, concrètement, si on veut tuer des animaux, la manière la moins efficace pour le faire, c'est de le faire à l'arc, en fait. Si on veut vraiment pas y arriver, moi, si je devais choisir une manière qui pouvait me garantir, parce que moi, je suis pas très effectivement porté, j'ai pas des capacités, en fait, à vraiment ce type de passage à l'acte, donc je serais du genre à plutôt y aller avec un arc.
Alors, ce qui se passe, non, ta question est plus que fondée, évidemment, c'est que... On tue très peu à l'arc, parce que l'arc, c'est d'abord une question éthique. Ça a été un petit peu constitué pour ça, pour cette espèce d'éthique qui est on tue, mais on tue, on ne blesse pas. Et deuxièmement, cette deuxième règle éthique, on mange. Et troisième règle, évidemment, on ne tire que lorsqu'on est sûr de tuer. Et ce n'est pas simple à 25 mètres d'être sûr de ne pas rater ça avec une flèche. Voilà. Donc c'est ça. C'est pour ça que tu as raison. On tue très peu. Et si c'est en attendant ça pour la viande, c'est presque un régime végétarien, d'une certaine façon. Mais qui, par contre, est l'apologie du régime carnivore. Vous voyez le paradoxe.
Non, mais je me dis, c'est quand même une espèce de forme de choses. D'abord, il y a une forme de détour. Et puis après, il y a cette question quand même de la proximité. Si je ne m'abuse, pour tuer un animal un tant soit peu vivant avec un arc, il faut être quand même relativement près. Ce qui suppose que, donc, globalement, ça marche presque jamais. Et qu'en plus, quand on est suffisamment près, ça commence à devenir un peu dangereux, ce qui du coup ouvre d'autres types de problèmes.
Et même plus troublant, voilà.
Chasser à l'arc, c'est apprendre à disparaître. La portée courte des flèches oblige à s'approcher au plus près des bêtes, entre 15 et 20 mètres, et c'est très peu. Il faut donc impérativement connaître d'elle tout ce qui peut s'en apprendre et en tirer les conclusions pour se rendre pratiquement inexistant pour elle. Mais à cela, il y a une conséquence, et pas des moindres. À force de se rendre insignifiant, à force de quitter toute apparence humaine, on cesse aussi d'être soi. On devient pour partie, au moins, ce que l'on traque, ce que l'on voit. S'approcher au plus près des bêtes et entendre aussi comme fréquenter au plus près l'animalité, sa propre animalité. Dans La visée pour tuer, il faut parvenir à une intimité difficilement descriptible avec l'animal. C'est une intimité avec son corps qui s'effectue dans la tension vers le fait de tuer, car tout doit être fait pour éviter de blesser, y compris l'aiguisement le plus exact des flèches, y compris le maintien d'une vigilance qui puisse interdire au dernier moment le lâcher de la flèche si celui-ci n'est pas sûr. Il faut être certain de tuer, par respect et parce que blesser sans tuer est un acte vain, de créatures sans dignité. Pour se donner le plus possible de chances de tuer vite, il faut viser le cœur de l'animal. Il faut regarder l'emplacement de son cœur en arrière de l'humérus, près du bas du thorax. Cela jusqu'à l'apercevoir comme en rêve, jusqu'à avoir la sensation de ne plus faire qu'un mentalement avec la matière vivante de l'autre. Cette intimité ressemble à l'aboutissement d'un déplacement, d'un trajet presque instantané vers cet autre qu'est l'animal à cet instant. Pour cela, il faut encourir un risque mental que connaissent tous les chasseurs à l'arc, celui de devenir soi-même la proie à force de concentration, de confusion entre soi, l'arc, la flèche et la cible, de sympathie au sens fort du terme, et d'y laisser momentanément la raison. Je n'accepterai jamais d'avoir honte de ce cannibalisme collectif, de le cacher sous l'argument de votre nature d'animaux réputés sans langage et étrangères en les mœurs. Nous sommes semblables et presque pareils quant à l'essentiel de la pensée et de la présence au monde. Nous nous mangeons les uns les autres, c'est ainsi. Ce cannibalisme est notre nature, il est fait de nos dents. Le renier est ridicule, lâche et insensé. Nous sommes faits de cela, de cette disposition à la carnation, à la plasticité du corps de l'autre. Pas d'une nature censée devoir protéger l'autre, et de quel droit, mais de cette même identité de la matière du vivant qui peuple le monde. Nous ne sommes respectables que du seul fait de respecter notre propre nature tueuse et dévoreuse, et de respecter la règle que cela entraîne. Or, cette règle est claire, et c'est la seule façon de rester semblable, sans écart ni domination entre nous. Nous, communauté cannibale de la dévoration, nous sommes une même chair qui se dévore sans cesse depuis la nuit des temps. C'est ma chair qui t'a tué, c'est elle qui a visé, c'est elle qui a décidé du moment opportun, qui a décidé de la décoche. Elle est le quelque chose qui a décidé et qui a tiré. Ce quelque chose qui s'est confondu un instant avec toi et qui, se confondant à toi, a su t'atteindre. Car cette chose, c'est moi aussi, et t'atteignant, je savais que je m'atteignais aussi. Cette chose, c'est elle, c'est toi, c'est moi, occasionnellement séparés et distincts. La vie te quitte. Et je suis avec toi, confondu dans un songe, comme lorsque je visais ton cœur tout à l'heure et que mon esprit s'y était abandonné, comme lorsqu'aussitôt la flèche lâchée, j'ai su qu'elle allait t'atteindre, c'est-à-dire aussi me rejoindre. Tout cela toujours comme dans un rêve. La vie te quitte, mais elle entrera bientôt en moi, et nous serons une seule et même vie continuée sous d'autres formes, sous d'autres aspects, avec d'autres appétits de chair et d'autres appétits de nourriture nouvelle. Rien ne viendra te détromper dans ce que tu tenais pour une angoisse et une certitude. Rien ne viendra non plus t'infliger l'humiliation d'avoir eu peur pour rien. Je te mangerai, et te mangeant, tu deviendras moi comme je deviendrai toi. Tu deviendras moi, ton ennemi, ton assassin, et je deviendrai toi qui ne m'a pas tué et qui meurt devant moi, et tu deviendras ma chair en te mêlant à la mienne et au sang qui l'irrigue, et tu deviendras celui que tu as craint de rencontrer partout, et qui t'a aussi cherché et attendu en rêvant sur les traces que tu laissais dans l'argile des chemins ou sur les troncs des arbres, ton compagnon fatal.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez la tradition, mais en général, lorsqu'on boit aux Antilles toute une soirée à boire du rhum, on offre toujours un verre d'eau à la personne qui quitte la maison. Comme ça, quand on pose la question le lendemain s'il y a eu un accident, on dira « la dernière chose qu'il a bu chez moi, c'est de l'eau ». Jean-Paul Curnier est actuellement en résidence d'écriture à l'espace Kiasma pour y développer une réflexion sur les rapports entre prédation et démocratie, entre la prise de possession et son partage, selon une forme qu'il veut différente de celle traditionnelle de l'essai. Dans ce cadre, il propose chaque mois une rencontre avec un invité de son choix, destiné à relancer la recherche dans une direction nouvelle. Le premier de ces rendez-vous mensuels a été consacré à l'exploration intérieure de la prédation, et de ce qu'elle implique comme forme de relation à la proie, et donc aux animaux, dans l'expérience qui lui est personnelle de la chasse à l'arc. Cette résidence s'inscrit dans le programme de résidence d'écrivains conduit par le service livre du Conseil régional d'Île-de-France. Les passages lus, que nous venons d'entendre, sont extraits de son dernier livre, « Philosopher à l'arc », paru au mois de novembre 2013 aux éditions Châtelet-Voltaire.
Vous avez aussi pu entendre un extrait du morceau Oye du groupe Can, paru sur l'album Tagomago, ainsi que de Machine Gun de Jimi Hendrix, paru sur l'album Band of Gypsy. Le programme a été produit par l'espace Kiasma, réalisation Jean-Paul Curnier et Sébastien Tsegel.